Europe 1.
Et c'est l'heure du débat des grandes voix, Nathalie Lévy sur Europe 1, avec autour de vous jusqu'à 19h, ce soir, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Bonsoir les grandes voix.
Bonsoir.
Avec des Français très partagés, on va commenter ça ensemble, des Français très partagés sur le droit au blasphème, ce droit de pouvoir critiquer une religion, selon un sondage IFOP pour Charlie Hebdo, publié aujourd'hui même au sujet de l'affaire Mila. Vous savez, c'est cette adolescente faisant l'objet de menaces après avoir critiqué l'islam. Le sondage a été réalisé 15 jours après. La jeune fille s'est exprimée dans les médias et on découvre une France littéralement coupée en deux, divisée en deux.
Alors, oui.
Charles Villeneuve.
Oui, pardon Gérard. Divisée en deux, mais avec des paradoxes, ça, oui. C'est étonnant. Si vous voulez, c'est moins clair. C'est vrai qu'il y a 50 pour, 50 contre, c'est vrai. Il y a une petite majorité de Français, 53%, qui soutient l'adolescente Mila et qui condamne à 56% les propos de Nicole Belloubet. Et pourtant, ils sont 68% à être d'accord avec l'avocat, vous savez, Richard Malka, quand il a rappelé que le fondement de la liberté de conscience n'est pas d'interdire la critique ou même l'injure contre une religion, mais de protéger la liberté d'expression.
C'est ça.
Alors voilà, je passe le relais à mes camarades pour qu'ils continuent.
Avec une autre phrase de Richard Malka qui a dû, Gérard Carrérou, vous interpeller. Va-t-on mettre sous protection policière tous les esprits libres? Ceux qui profèrent des menaces se promènent libres, eux. Voilà où on en est aujourd'hui.
Oui, mais justement, moi je me pose la même question que Maître Malka. Parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, on n'est plus dans cette république laïque que les gens de ma génération ont connue depuis les années 50-60. On n'est plus tout à fait, on n'a pas encore complètement basculé, mais on n'est plus tout à fait dans cette même république. Et on est, et c'est terrible à dire, mais j'ai l'impression, je relisais il n'y a pas longtemps, parce que je l'ai retrouvé dans la bibliothèque, le bouquin de Houellebecq, Soumission. J'ai l'impression, d'une manière insidieuse, qu'on s'est engagé dans le processus de la soumission. Parce qu'on ne peut plus dire un certain nombre de choses, ou qu'on ne veut plus dire un certain nombre de choses, comme 50% de Français qui trouvent, ou partie de ceux qui disent qu'on n'aurait pas dû aller si loin, que la petite Mila n'aurait pas dû, etc. C'est un moyen de dire, c'est une façon de dire, il faudrait quand même des accommodements, il faut se soumettre à un certain nombre de volontés parce qu'il y a une communauté musulmane de plus en plus importante, que la religion musulmane interdit un certain nombre de choses, etc. Et du coup, il y a une dérive, on se laisse aller à ces concessions au jour le jour. Et comme la garde des Sceaux, enfin écoutez, je terminerai là-dessus, enfin pour l'instant, la garde des Sceaux, qui elle doit incarner la loi. En plus, cette femme, qui est une femme de qualité, qui a fait des grandes études, qui a été membre du Conseil constitutionnel.
Agrégée de droit.
Eh bien, on a l'impression qu'elle ne connaît pas. Alors, comme je me dis qu'elle connaît la loi, ce n'est pas qu'elle ne connaît pas la loi, mais elle fait comme si elle ne connaissait pas la loi, en disant qu'après tout, effectivement, Mila aurait...
Mais peut-être qu'elle a un sens aigu de l'initiative juridique.
Oui, non, mais en tout cas, moi, ça m'inquiète. Je suis, comme Maître Malka, extrêmement... Je suis consterné de voir ces résultats.
Et on se souvient, Catherine Ney, enfin, on n'est pas très loin des événements de Charlie Hebdo. Qu'est-ce qui s'est passé?
Mais là, justement, d'ailleurs, c'est intéressant que ce soit le journal Charlie Hebdo qui demande
cette enquête d'opinion.
Cette enquête d'opinion, alors que ce droit au blasphème lui permettait d'étrier toutes les religions.
De tout dire, de tout écrire et de tout dessiner, bien sûr.
C'était pas toujours très drôle, mais enfin, c'était son droit. Et en tous les cas, il ne contrevenait pas à la loi, parce que la France est la première nation d'Europe qui a aboli le délit de blasphème dès la Déclaration des droits de l'homme. Bon. Mais maintenant, ce que l'on voit et qui est préoccupant, c'est que il y a une forme d'autocensure qui est en train de se créer dans la société. Et moi, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est lorsque Mila a tenu des propos, une gamine, de la façon dont un peu ordurier sur eux, qui était très désagréable, il faut dire qu'elle était elle-même maltraitée par un garçon qui l'a bousculée, qui l'a traitée de lesbienne parce qu'elle refusait ses avances. Et donc, à cet âge-là, elle a eu un coup de sang, un coup de boule, et elle a sorti des horreurs sur la religion, pas sur les musulmans, sur la religion. Mais ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que le premier réflexe du parquet de l'Isère, ça a été d'ouvrir une enquête préliminaire sur provocation à la haine raciale. Donc la justice elle-même, il y a non seulement Nicole Belloubet qui dit que vraiment c'est en atteinte à la liberté de conscience et que le droit de blasphème c'est fini, mais que la justice, alors elle l'a retiré. Mais c'était... Donc vous voyez, la peur, moi je crois que depuis les attentats de Charlie Hebdo, dont on vient, hélas, de célébrer le 5e anniversaire. Il y a à la fois une peur et aussi une frilosité de la gauche de faire...
On a entendu Ségolène Royal, d'ailleurs, dernière aussi.
Non, mais pas seulement de la gauche.
Oui, frilosité, mais de la gauche, de... Bon, alors...
on y revient dans un instant, je ne voulais pas vous couper la...
Par culpabilité, décoloniale, héroïsation sociale...
Surtout quand on entend le président de la République qui nous rappelle à quatre reprises les crimes de la colonisation, etc.
On n'a pas fini sur ce sujet, on se retrouve dans un instant, c'est promis, les grandes voix.
Europe 1, il est 18h39. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix autour de vous ce soir. Nathalie Lévy pour débattre, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou.
Oui, c'est un débat évidemment depuis 15 jours qui agite, avec aujourd'hui désormais un sondage lié aux propos de Mila, cette jeune fille. Une enquête d'opinion qui montre quoi ? Eh bien que la moitié des Français est défavorable au droit de critiquer les religions. Oui. Et un enseignement de cette enquête d'opinion que je voulais vous soumettre, c'est quand même que les jeunes générations, les jeunes et les musulmans y apparaissent particulièrement hostiles. Hostiles à la liberté de blasphémer. C'est grave, non ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, vous faites allusion au sondage de l'IFOP.
Absolument.
Mais il y a aussi le baromètre de l'Observatoire de la laïcité que La Croix, le journal La Croix dévoile aujourd'hui, qui est assez intéressant. C'est surtout, si vous voulez, il y a deux nuances. C'est que non seulement ça révèle un décrochage chez les plus jeunes, mais l'attachement à la laïcité dont témoignaient 70% des 18-24 ans dans le baromètre de l'année dernière a chuté de 9 points. Et manifestement, c'est le poids des réseaux sociaux qui joue là-dessus et qui est expliqué dans l'Observatoire de la laïcité, parce qu'il y a quand même plus de 70% de Français qui continuent à croire aux valeurs de la laïcité.
Et oui, c'est quand même tout le paradoxe, encore une fois. Moi, je croyais qu'il fallait garantir le droit au blasphème dans ce pays.
Il y a quand même, effectivement, je pense avec tristesse que dans la jeunesse d'aujourd'hui, cette laïcité que les plus âgés défendent encore bec et ongles à chaque occasion pour la protéger, je pense que elle a un petit côté, je vais dire le mot, elle a un petit côté pour certains jeunes ringard. C'est un peu du passé, la laïcité... D'abord, ils ne savent pas toujours exactement
ce que ça veut dire. Mais parce qu'ils ne concrétisent pas ce qu'est la laïcité.
Oui, ils ne concrétisent pas, mais justement, il y a des occasions de le concrétiser. Et malheureusement, les attentats terroristes ont été une occasion de démontrer qu'il faut, si on veut que... Alors c'est simple, où on veut la guerre civile dans notre pays, personne ne la veut quand même. Enfin, ou alors, il y a quelques enragés qui la veulent. Mais si on veut la coexistence pacifique et le développement côte à côte des communautés, il faut que la laïcité soit prévalente. Il faut qu'elle soit non seulement maintenue, mais renforcée.
Oui, mais ça tient au chef de l'État de préciser un certain nombre de choses. Alors, manifestement, Nathalie, il ne le veut pas, il ne le souhaite pas à l'heure actuelle, parce qu'il considère que il définirait la laïcité sous la pression médiatique et par rapport à un fait comme celui de Mila. Mais en même temps, je crois qu'il ne veut pas politiquement ouvrir un nouveau front social parce que ses partisans eux-mêmes, dans le cadre de La République en Marche, sont très partagés. Vous avez une Marlène Schiappa qui est d'ailleurs souvent... Moi, à mon sens, toujours très clair sur ses positions et qui a une ligne dure sur ce plan-là.
Dure et juste.
Vous avez un député comme Aurélien Taché, il ne faut pas oublier que justement, il avait stigmatisé le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui était contre le voile lors des sorties scolaires, etc. Et il l'avait qualifié de fournisseur d'arguments au Rassemblement national. C'est vrai que depuis... Il s'est excusé. Et vous avez aussi l'une des porte-paroles de La République En Marche qui, elle aussi, était sur la même ligne que Marlène Schiappa. Ouais.
Mais là, donc, il est appelé de toutes parts, et notamment du côté des Républicains, que ce soit Christian Jacob, que ce soit Christian Estrosi, l'appelle à se manifester sur la laïcité. Il ne va pas pouvoir y couper, Catherine.
Ça fait deux ans qu'il est à la veille
des municipales. Je pense qu'il ne parle pas parce que le « en même temps » n'est pas possible
sur ce sujet-là.
Et que lui-même n'est pas honnête avec ce qu'il pense. Voilà. Parce que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. S'il ne dit rien, c'est qu'il est gêné et qu'il a peur de... De toute façon, quoi qu'il dise, j'ai l'impression, il sera critiqué.
Oui, mais
et là, d'ailleurs, avant, il devait parler de la laïcité et de l'islam. Maintenant, il va parler, on a annoncé, sur le communautarisme. Ouais. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
C'est pas la même chose.
Donc, il va aborder le sujet de manière biaisée.
Sur la radicalisation et le communautarisme, et aussi les relations entre les organisations musulmanes et la République. Parce que là aussi, il y a un problème.
Surtout quand on voit les dirigeants des associations musulmanes, comme on l'a vu encore pour l'affaire Mila, prendre des positions, en tout cas certains d'entre eux, prendre des positions totalement inacceptables.
Et pourtant, le communautarisme a été érigé en cause majeure par le gouvernement ces dernières semaines.
Oui, mais là,
aurait dû y avoir un discours, il aurait dû y avoir une prise de parole. Là, en février, on n'est pas encore au bout, mais a priori, ça ne vient pas.
Non, mais vous savez, le macronisme déteste le manichéisme.
Exactement.
Moi aussi, sur certains points, il dit non, on ne peut pas être manichéen, c'est-à-dire blanc ou noir, non. Sauf que dans ce domaine-là, il y va de la survie de la République. Et la République française, à partir du moment où elle est maintenant constituée bien différemment de ce qu'elle était il y a 30 ou 50 ans, il faut que la laïcité soit la règle de vie et que le chef de l'État en soit le garant.
Je pense que l'on ne peut réparer que cette porcelaine très fêlée qu'est la France aujourd'hui que par une position très ferme sur la laïcité.
Non, mais il le sait, à mon avis.
Il le sait, mais il disserte.
Il le sait, il sait très bien qu'une partie de l'élection présidentielle 2022 se jouera là-dessus, comme s'est jouée une partie du Brexit et du refus des Anglais qui ont largué les amarres avec l'Union européenne à ce sujet aussi.
Allez, on se retrouve dans un instant. Les grandes voix, très inspirées évidemment sur ces sujets.
Europe 1, il est 18h47. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix. Et ce soir, autour de la table, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou, Nathalie Lévy.
Oui, on reste évidemment sur cette question de la laïcité, l'islam, le blasphème, parce que véritablement depuis 15 jours et cette affaire Mila, ça fait énormément réagir. Et je me posais la question, je vous la pose du coup à vous les grandes voix, la droite là-dessus, les Républicains, est-ce qu'ils n'ont pas un coup à jouer, entre guillemets? Allons-y, ils peuvent passer à l'offensive. Ce sont leurs sujets.
Oui, mais Nathalie, pendant longtemps, la droite, il faut le reconnaître, les Républicains ne voulaient pas de la laïcité, ni entendre parler de la laïcité. Aujourd'hui, ils sont devenus des partisans, évidemment, acharnés à la laïcité. Donc, c'est un retour de politique politicienne et il faut faire attention parce que les Français...
Mais ils le jouent maintenant, le coup.
Ils le jouent à fond.
Retailleau est très en pointe là-dessus.
Oui, il l'a toujours été.
Ciotti est en pointe là-dessus.
On l'a entendu.
Oui, je pense que vous avez raison, Nathalie. Vous avez raison de le souligner. Il y a un créneau. Moi, je pense qu'il y a un créneau.
À 6 semaines des municipales,
on a dit les Républicains se sont effondrés. On s'est moqué d'eux à juste titre. Ils ont fait 10 points aux élections. Bon, ils ont un terrain d'excellence qui pourrait être le moyen de revenir dans le jeu politique au plus haut niveau. C'est effectivement d'être sur le plan du régalien. Meilleur, si j'ose dire, qu'on ne l'est actuellement. Meilleur, ça veut dire avec plus ferme, plus franc. La fermeté des options et non pas essayer des atermoiements permanents. Et c'est là que je trouve que le président de la République manque. Je ne veux pas l'accuser, je ne veux pas aller jusqu'à dire qu'il manque de courage sur ce point. Mais je pense que, comme disait Catherine, peut-être qu'il, comme l'homme très intelligent qu'il est, il voit très bien le problème, mais il se dit « si je prends des positions tranchées, je vais perdre un pan entier. Je vais peut-être capter tous ceux qui croient. »
Gérard, quand tu as le parti même de ta majorité, si tu veux, largement majoritaire en plus à l'Assemblée nationale, qui est partagée, qui est divisée, il y a des lignes de partage quand même assez fortes, justement, au sein du parti. Et donc, évidemment, il hésite.
Bah, bien sûr.
C'est l'une, oui, de, c'est l'une de ses hésitations.
C'est perdant-perdant pour lui. Catherine, je faisais référence à Guillaume. C'était Guillaume Pelletier. Je me faisais, effectivement, je veux.
Mais il y a Guillaume l'arrivée,
mais
il y a aussi, oui.
Non, mais parce que Guillaume Pelletier, il a interpellé Christophe Castaner. Je me disais bien, ministre de l'Intérieur, il lui dit, voilà, quand est-ce que vous éradiquez l'islam politique? Quand est-ce qu'on fait les choses? Quand est-ce qu'on n'accepte plus qu'une jeune fille de 15 ans soit menacée par les plus fanatiques et abandonnée par les plus lâches? Abandonnée par les plus lâches. Vous l'avez cité, la gauche tout à l'heure, les associations, où sont-elles? Où sont-elles aujourd'hui?
Eh bien, je crois qu'elles ont peur parce qu'il y a ce climat de post-colonialisme et de voir que finalement, eh bien, ces enfants venus d'Algérie, leurs parents, parce que les premiers temps, les parents n'allaient pas à la mosquée et puis peu à peu dans les quartiers, ce que décrit très bien dans son livre Monsieur Pupponi, qui est l'ancien
François
maire de Sarcelles, François Pupponi,
ouais.
Raconte comment peu à peu dans les quartiers, eh bien ils ont affiché leur religion et que peu à peu ça a créé des réactions anti-musulmanes qui tournent après l'anti-islamique et les gens ont peur. Voilà la différence. Voilà. Alors je ne sais pas comment il va faire une loi pour lutter contre le communautarisme, parce que le communautarisme maintenant il est installé. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On va dire, c'est très très difficile.
Oui, mais ça
on
veut
a
dire
perdu
que,
du
c'est
temps.
C'est bien pour ça que j'ai prononcé le mot de soumission, parce que bien on admet que le communautarisme étant installé, eh ben il faut composer avec lui. Et dans ce cas-là, c'est la République qui se met à genoux. Ou alors on dit ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable, et il faut redresser là-bas.
Voilà.
Je ne suis pas sûr.
Et le problème est que les détenteurs d'un islam intégriste essaient maintenant de prendre le pouvoir.
Non, moi je crois qu'il en est parfaitement conscient. Le 3 février dernier, lundi dernier, devant le Conseil consultatif de coordination des Arméniens de France, j'étais au dîner, il a été quand même assez clair sur les dispositions qu'il souhaitait prendre et qu'il a annoncé vouloir en faire part aux Français relativement dans peu de temps. Maintenant, cela étant, ça fait deux ou trois fois qu'il en parle et que pour l'instant, il n'annonce rien. Notamment par rapport, si vous voulez, au ministère de l'Éducation nationale et puis aussi aux lois de la République. Il a dit de toute façon qu'il serait extrêmement sévère. Sauf que cet acte d'autorité, si vous voulez, évidemment, se fait attendre pour des raisons qu'on peut comprendre, mais qui tardent beaucoup trop. Ouais. Mais moi, ce qui me paraît plus inquiétant, c'est que, si tu veux, il y a une sorte de phénomène idéologique qui est inquiétant, c'est l'abandon de tous les idéaux universalistes, manifestement.
Non, mais
et
c'est
ça,
une façon
justement.
De dire aux musulmans, viens, je vais te donner une gifle, et ils ne la donnent toujours pas, quoi. Or, en ce moment, il y a une vraie fracture qui se crée dans la société.
Enfin, il faut dire clairement, la charia n'est pas la loi de la République. Et quand on voit l'Institut Montaigne, qui avait fait sa grande enquête il y a 2 ans, où on voyait que parmi les jeunes musulmans, effectivement, presque les jeunes, je parle de ceux qui
30%.
Avaient entre 18, il y avait plus d'un tiers qui pensaient que la charia était au-dessus des lois de la République. Ce processus-là, il faut l'interrompre, ou alors, je vous dis, on va vers des lendemains qui déchanteront pour les habitants.
Cela étant,
Gérard,
il y a beaucoup de musulmans qui en sont parfaitement conscients, qui eux acceptent les lois de la République, qui sont intégrés dans le tissu social.
Et c'est à
social.
Ceux-là, sur ceux-là qu'il faut s'appuyer.
En tout cas, le président n'est pas prêt sur un discours sur la laïcité. Un conseiller de l'Élysée le disait il y a encore quelques jours. Il n'est pas prêt pour l'instant. Sur ce sujet, c'est un engagement, certes, mais le travail ministériel est en cours. Jusqu'à quand? On verra bien. Est-ce que les Républicains peuvent en profiter? En tout cas, à 6 semaines des élections municipales, ce sera évidemment un sujet qui sera largement scruté. Merci beaucoup, les Grandes Voix du mercredi.
Europe 1. À suivre, Nathalie Dévy.
Le rappel des titres, c'est Sébastien Krebs qui nous rejoint.
Votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h et c'est avec Nathalie Dévy sur Europe 1.